Sauriez-vous dire ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ou bien, connaissez-vous votre potentiel? Bienvenue sur le podcast Résonance. Tous les mois, parlons développement personnel, spiritualité, émotions, chemin de vie et expérience. Je m'appelle Mathilde Chauveau, je suis sophrologue et consultante en management. J'ai créé ce podcast pour faire résonner votre potentiel en s'inspirant de personnes qui ont réveillé le leur. Et si on explorait des parties insoupçonnées de nous-mêmes? Allez Résonance, fais-nous vibrer! Bonjour Edouard.
Bonjour Mathilde.
Alors Edouard, tu viens de Nouvelle-Calédonie, tu es comédien, consultant dans ton entreprise qui s'appelle Holisco. Je suis ravie de faire ce podcast avec toi sur le théâtre d'improvisation. Alors tu t'appuies sur la méthodologie et la philosophie du théâtre d'improvisation pour former, aider les managers, les dirigeants dans leur mission quotidienne et leur rôle. Et tu fais le lien entre ces deux univers. Et en 2016, tu as été champion du monde de théâtre d'improvisation.
Donc oui, j'ai été champion du monde en 2016 d'un spectacle qui s'appelle le championnat du monde d'improvisation. Et en fait, c'est un spectacle, mais il y a une notion de compétition dedans qui est assez intéressante parce qu'elle elle permet on se bat avec l'autre. C'est-à-dire que pour gagner des points dans cette compétition, il faut réussir à mettre l'autre en valeur le plus possible. D'accord. Et c'est plus un spectacle qu'une compétition, mais je dois avouer que ça m'a permis de passer au journal aux 20h, comme on dirait en Nouvelle-Calédonie. J'en suis quand même. Ça m'a quand même permis d'avoir une petite notoriété de 5 minutes. Et j'en suis pas fier aujourd'hui, mais ça a été une super expérience. Ça m'a permis de serrer la main de Barack Obama et de... Barack Obama qui était joué par un collègue, bien sûr.
Tout à fait.
Tout ça n'est que du théâtre.
Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as débuté le théâtre d'improvisation?
J'ai été étudiant à Besançon et un soir... je pense qu'on n'avait pas de soirée de prévue et sur le campus universitaire, j'avais quitté la Nouvelle-Calédonie, du coup j'étais en France un peu libre et je me suis retrouvé dans un match d'improvisation, enfin en tant que spectateur, un peu par hasard. Et j'ai vraiment adoré ce spectacle. Je me suis dit tiens du théâtre et puis en même temps c'est drôle, le public participe. J'avais vraiment pas l'habitude de ça et je trouvais ça vraiment génial. Et j'ai essayé de m'inscrire, j'ai pas réussi. Et en fait, 3 ou 4 ans plus tard, je me suis retrouvé pendant mon master à Nancy avec un gars qui flyait à l'entrée pour un spectacle. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas des cours, des ateliers. Il m'a dit ça commence ce soir. Le soir, j'y suis allé et ça, c'était en 2004, je crois, ou en 2003. Depuis, j'improvise.
D'accord. Et j'entends que pour toi, alors, tu as fait du théâtre d'impro de manière spontanée pour te divertir ou découvrir. Et c'est vrai qu'il y a mille raisons de faire du théâtre d'impro. Certains vont en faire pour travailler sur la confiance en soi, d'autres pour s'exprimer en public. Ça peut être se défaire du regard des autres ou bien se lâcher un peu. Et dans ma troupe d'impro, ce qui ressortait beaucoup, c'était aussi rencontrer des personnes qui ont le même état d'esprit.
Je dois avouer que si j'ai aimé l'impro, c'est parce que j'ai aimé le groupe où j'ai commencé. C'est-à-dire que dès le premier soir, on s'est retrouvé après l'atelier à boire des coups dans un bar, à discuter, et ça a duré jusqu'à... je crois qu'on a fait une nuit blanche ce premier soir-là. Donc oui. Le groupe est hyper important. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté Nancy, après un an et demi d'impro, je me suis retrouvé à Dijon, et la première chose que j'ai faite, c'est de trouver... un nouvel atelier parce que je me suis dit c'est le meilleur moyen pour découvrir des gens dans une ville qu'on connaît pas.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu le principe quand même en théâtre d'impro le soir avec la troupe de se retrouver après chaque entraînement. C'est vrai que ça se fait énormément. Et c'est vrai que je me souviens de mon premier cours d'impro en 2019 et j'ai quand même failli faire demi-tour la première fois. Très vite, j'ai tissé des liens très forts avec le groupe et ça devenait vraiment important pour moi d'y aller parce que voilà, c'est aussi un groupe d'entraide avant tout, et c'est quand même la première fois que je ressentais autant de bienveillance et d'empathie au sein d'un groupe. Et vraiment une bienveillance profonde et sincère. Hein.
Oui, c'est tout le travail du coach ou de l'entraîneur de réussir à amener un petit peu cette construction de groupe. C'est pour ça qu'en général, on fait démarrer les nouveaux tous ensemble, pour que chacun puisse avoir un petit peu un regard juste sur ce qui se passe. C'est-à-dire que, oui, le travail est immense, mais oui, en fait, on a tous à amener quelque chose à cet instant-là. Et si le coach travaille bien, en fait, il permet à chacun de voir quels sont les atouts, les forces de chacun et à quel point ça va être complémentaire pour nous tous et à quel point on peut prendre du plaisir, en fait, à essayer, à se tromper, à en rire, à rire de tout ce côté, justement, où il n'y a pas de performance. C'est-à-dire qu'on vous demande juste d'essayer et de prendre du plaisir à essayer. Et après, on vous demande d'échouer et à prendre du plaisir à échouer. Et c'est vraiment très contradictoire avec tout ce qu'on a pu nous apprendre au départ dans la société.
Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui te fait actuellement vibrer à travers le théâtre d'impro ?
Ouh là là, je crois tout. En fait, l'impro est devenu un petit peu un révélateur de ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis dit, j'ai une façon de faire qui ne permet pas, par exemple, quand j'étais avec des amis, de programmer des choses à long terme, parce que je me disais, je n'arrive pas à me projeter. Et en fait, je me suis rendu compte que l'impro utilise ces modèles-là, et utilise en fait la notion de présent. Donc, pour moi, il y a vraiment tout un état d'esprit de qu'est-ce qui se passe là maintenant, avec qui je suis, qui sont ces gens, qu'est-ce que je peux faire avec eux, quel est leur univers. Et en fait, il y a toute une dimension sociale et artistique, en fait, qui est pour moi riche et inépuisable. Au niveau social, parce qu'il y a ça m'a apporté un regard sur les autres, c'est-à-dire plutôt que de me dire l'autre est différent, maintenant je me demande qu'est-ce qui pourrait m'apporter, mais pas en richesse intérieure, je veux dire. Pourquoi il réfléchit comme ça, qu'est-ce que ça amène comme conception. J'ai remarqué que l'impro m'avait apporté aussi une approche systémique sur les choses, c'est-à-dire que tout n'est pas des éléments séparés, mais tout est c'est un ensemble. Des fois, dans une impro, on peut prendre quelqu'un qu'on considère comme pas bon, quelqu'un qu'on considère comme très bon. Ils vont faire une impro extraordinaire et on va mettre deux personnes reconnues comme étant de grands improvisateurs et ils vont faire une impro qui n'est pas intéressante. C'est pas la somme des gens qui est importante, c'est ce qui se passe, c'est une alchimie à ce moment-là. Et vraiment, ça oblige les gens à se porter des regards vraiment différents. Donc moi, il y a eu cette idée de se dire la bienveillance, en fait, c'est pas juste un mot, c'est pas juste quelque chose qui est très élimé aujourd'hui. C'est vraiment une façon d'être et une façon de voir l'autre qui permet, je trouve, de mieux vivre les choses. Je vais faire un lien avec le Covid en ce moment-là. J'ai eu plein de pensées au bout d'un moment qui me disaient pourquoi les autres sortent et pourquoi moi je reste confiné. Et je me suis posé la question de OK, c'est quoi leur modèle? Et je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce qu'ils vivent, donc je ne peux pas me permettre de juger. Et en fait, le fait de me dire ça, ça me permettait de me dire, moi, je participe à mon niveau et eux participent à leur niveau aussi. Et ensemble, on fait que ce confinement a fonctionné.
Tout à fait.
Donc, ce n'est pas qu'il y a des gens qui ont fait les malins ou qui ont été moins respectueux que d'autres. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient faire, en fait. Et je pense que tout le monde y a mis du sien.
Oui, exactement.
La notion artistique que j'ai pas trop abordée aussi, l'improvisation, pour moi, c'est c'est pour ça que tout à l'heure je disais champion du monde, c'est quelque chose que j'ai du mal un peu à accepter aujourd'hui, c'est parce que ça enlève le côté vraiment artistique qu'on peut rechercher aujourd'hui. Et pour moi, c'est une source inépuisable un petit peu de recherche et de travail, parce qu'on peut se dire que par exemple tiens, on pourra improviser une pièce à la manière de Shakespeare, et du coup ce qui serait intéressant, c'est de se dire tiens, comment travaillait Shakespeare, quels sont les codes qu'il a utilisés, quels sont les systèmes narratifs, quelle était la politique de l'époque, et se dire je vais m'imprégner de tout ça et refaire un Shakespeare de l'époque. Mais on a aussi la chance de pouvoir se dire Shakespeare, regardez avec ce prisme-là la société, qu'est-ce qui se passe si je transforme Shakespeare aujourd'hui, et je regarde donc Avec les yeux de Shakespeare, je regarde notre société d'aujourd'hui, je retraite les mêmes choses qu'il a pu traiter à son époque, la jalousie, comment on se comporte avec les réseaux sociaux, etc. Donc pour moi, il y a vraiment une forme artistique qui souvent est placée au second degré, parce que l'impro aujourd'hui se joue dans des petites salles, donc dans des cafés-théâtres souvent, là où on nous demande d'être drôle. Donc il est très difficile de se dire je vais faire autre chose que juste être drôle, même si je considère qu'être drôle, c'est aussi un art. Tout dépend de ce qu'on met derrière être drôle. Mais il y a vraiment tout un pan à explorer aujourd'hui, de se dire l'impro nous permet de créer des œuvres éphémères, inspirées de plein de choses. Et donc, du coup, ça nous pousse à aller chercher plein de choses pour nourrir cet art. C'est un des rares, je trouve, arts où on va chercher à s'inspirer de beaucoup de choses. J'ai vu de l'impro avec de la peinture, j'ai vu de l'impro avec des danseurs, avec des dessinateurs, j'ai vu de l'impro avec des céramistes. Donc, vraiment, il y a cette notion-là de venez, on prend ce qu'il y a et puis on crée ensemble.
Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu fais aussi tous les jours, ton quotidien dans ton entreprise ?
Dans mon entreprise, en fait, quand j'ai voulu créer cette entreprise, j'étais en collaboration avec Nicolas Moitron. Et on s'est dit que l'impro nous apportait beaucoup de choses, mais on n'arrivait pas à mettre des mots dessus, donc on s'est tourné vers... l'impro permet de travailler des soft skills, donc on s'est dit on va travailler les soft skills. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, en fait, ce qu'il y a de très important dans l'improvisation, c'est que oui, on travaille des savoir-être, mais en fait, on met une structure pour que tout cela fonctionne. Tout à l'heure, je parlais d'un bon coach pour permettre à tout le monde de bien fonctionner ensemble. Il crée en fait une structure, il crée un environnement qui est propice, qui permet en fait se lâcher prise, qui permet cette bienveillance, et on s'est dit qu'en fait en entreprise, si on fait travailler les soft skills, mais que quand ils retournent dans leur entreprise, ils se mettent à retrouver le cadre qu'il y avait avant. Et si on part du principe que tous les êtres humains sont fondamentalement bons, alors c'est le système qui les a pervertis. Donc notre idée, c'est de se dire ce cadre qu'on met dans l'impro, en fait, il faut pouvoir le mettre dans l'entreprise pour que les soft skills puissent se développer derrière. Et on est tombé là-dessus, sur la gouvernance partagée, sur plein de choses qui ont résonné en nous, l'holacratie, l'entreprise libérée, la sociocratie. Et on a fait énormément de parallèles avec l'improvisation. Donc du coup, on s'est dit, c'est pas de l'impro qu'on veut faire en entreprise. En fait, c'est la philosophie de l'improvisation et de l'enseignement de l'improvisation qui permet aux gens d'être pleinement ou le plus eux-mêmes. Donc, c'est ça qu'on veut apporter dans l'entreprise aujourd'hui.
Et qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur tous les stéréotypes, par exemple, qui peuvent se jouer en théâtre d'impro ?
Ce qui est génial en improvisation, c'est qu'au début, on va utiliser tout notre paraître, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous nos premiers outils de défense, tous nos premiers moyens de défense. Et comme tout artiste, en fait, au bout d'un moment, on va aller chercher et creuser un peu plus loin. Et dans les ateliers, souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que nos premiers outils de défense, c'est notre genre et notre façon d'être. Donc, les garçons vont être très garçons, si je peux dire, et les filles vont être très filles. Je caricature, là. Mmh. Et souvent, les garçons ont cette notion de montrer qui est le plus fort, montrer qui est le plus drôle. Et aujourd'hui, je constate qu'en improvisation, souvent, les gens qu'on considère comme de bons improvisateurs ou comme de bonnes improvisatrices sont des gens qui, typiquement, ont un jeu fort, très en force, très drôle, incisif. Et il y a toute une partie qui est, dans la notion de genre, dédiée normalement aux femmes, qui va être... on va mettre de la douceur dans ce qui se passe, on va mettre un peu plus de profondeur dans ce qui est dit, on va aller chercher à explorer un peu plus la profondeur de ce personnage. Aujourd'hui, je fais la distinction de ce que je vois dans les ateliers, c'est-à-dire que moi, il m'a fallu du temps, par exemple, pour me rendre compte que j'utilisais beaucoup ces stéréotypes-là, et de me dire, de me demander pourquoi, et de me rendre compte qu'en fait... aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons qui font de l'improvisation parce que les filles, souvent, ne trouvent pas la représentation de leur genre tout de suite.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, dans mes ateliers, je me bats contre tout ce qui peut avoir trait au sexisme, qui d'ailleurs n'est pas l'apanage des garçons. Hein. Je me bats garçon-fille, je me bats avec moi-même parce que j'ai encore beaucoup d'a priori ou de raccourcis, enfin de biais cognitifs qui m'entraînent vers les notions de genre. Mais ça m'a permis de prendre du recul là-dessus et il y a vraiment ce travail à faire aujourd'hui de se dire en fait c'est pas parce que tu es garçon que sur tes premières impros tu es obligé forcément de nous parler de ton appareil génital. non mais c'est vrai que il y a beaucoup de scènes qui sont comme ça. C'est pas parce que tu es avec une fille qu'il faut tout de suite que tu nous parles d'une relation amoureuse. Il y a plein de choses à travailler encore là-dessus et je trouve que c'est un bel outil pour explorer l'autre différemment et s'explorer soi aussi différemment parce qu'on a la chance d'interpréter des personnages qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas et quand ils nous plaisent pas on peut s'en débarrasser tout de suite, c'est-à-dire de se dire oula j'ai atteint, je suis sorti de ma zone de confort, de pouvoir réfléchir après, de se dire c'était quoi cette zone de confort que j'ai quitté, c'est quel point qui me gêne tant que j'ai été obligé de reculer, et de se dire voilà, ok, ça dit quoi de moi, comment je peux avancer là-dessus.
Ouais, et c'est vrai que dans les écoles d'impro aussi, il y a énormément d'hommes qui se mettent au théâtre d'impro, des femmes aussi. C'est vrai qu'il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Et souvent dans les groupes, dans les écoles, ils vont quand même faire en sorte de répartir hommes et femmes quand c'est possible. Et au début, je me suis rendu compte en commençant, alors ça fait juste un an que j'en fais, je me suis rendu compte que je partais aussi avec une croyance assez limitante au départ en me disant « Oh là là, mais c'est vrai que les hommes apprennent très tôt à faire rire et pour une femme, ça va peut-être être plus compliqué. » Alors qu'en fait, pas du tout, mais juste pas du tout. Et c'est quand même le premier point, c'est de se dire aussi qu'on a quand même tous le potentiel de toucher les gens, de les faire rire ou peut-être même pleurer, et que l'on soit un homme ou une femme, en fait. Et puis aussi de se dire que les scènes en théâtre d'impro, elles ne sont pas toujours drôles. Alors, on imagine souvent le théâtre d'impro avec des scènes drôles, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est surtout que quand on est sur scène ou quand on est en cours d'impro, on n'est pas seul. L'histoire, on la crée avec les autres, avec le groupe. Et on a souvent l'impression que oui, ça va être comme du stand-up et... On va faire rire toute la salle et on va passer tout seul. Mais ce n'est pas toujours le cas.
C'est même ce qu'on essaie de sortir de ça aujourd'hui en improvisation. C'est-à-dire qu'il y a un côté très humoristique. Aujourd'hui, l'impro est considéré comme une seule chose. Pour moi, il va falloir que l'impro puisse, comme le théâtre, se donner des genres. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... si tu veux voir de l'impro drôle, va voir de l'impro qui est tagué drôle. Si tu veux voir de l'impro un petit peu comme au théâtre, on pourrait se dire il y a du théâtre de boulevard, il y a du théâtre contemporain, il y a du théâtre à la manière de Shakespeare, etc., etc. Aujourd'hui, on n'a pas encore toute cette différenciation et je pense que quand on aura ça, on aura déjà un public plus large. Moi, je me rappelle qu'un jour, un public est venu nous voir, on leur avait dit attention, c'est un drame. Les gens nous ont dit oui, bien sûr. Et au bout d'une heure et quart, donc c'était une pièce d'une heure et quart qu'on a improvisé, on n'a pas d'applaudissements à la fin. Et on se dit, mince, d'accord. La salle se rallume, mais en fait, on voit que toute la salle est en pleurs. Donc on se dit, ah, bon, bah, en fait, voilà, on a provoqué des émotions et ça, c'est chouette. Et en fait, le retour qu'on a eu des spectateurs, c'était, je n'étais pas venu là pour ça. Vous m'avez un peu pris en otage, donc on leur dit le spectacle n'était pas bien. Si, mais j'étais venu pour me détendre, j'étais venu pour rire, et là vous m'avez bouleversé, vous m'avez. Nous on s'est dit ben c'est chouette, mais on s'est rappelé quand même que quand des spectateurs viennent dans un café théâtre, s'ils ont décidé de venir rire, on peut pas leur proposer autre chose en fait.
C'est ça. Ouais.
C'est trahir un peu la confiance. Alors nous. On s'est défendu en disant « Ah, mais attendez, on avait noté, c'est un drame. » Et les gens nous ont dit « Oui, mais un drame en impro, on ne pensait pas qu'on pourrait aller jusque-là. » Et donc, artistiquement, on s'est dit « Bon, ben, c'est chouette, on peut aller jusque-là. » Après, c'est vrai que pour le bien du public et pour la bienveillance envers le public, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur l'information. Pouvoir dire aux gens « Attention, c'est pas parce que c'est de l'impro que c'est drôle. Regardez les sous-titres en dessous, j'ai envie de dire. »
Tout à fait. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le regard qui change sur l'autre. Je me suis rendu compte que c'est vrai qu'avec le théâtre d'impro, on prend encore plus soin de l'autre quand il s'exprime. On apprend véritablement à l'écouter et en fait à accueillir son idée pour rebondir sur l'histoire qu'il vient de nous proposer. Et c'est assez intéressant parce qu'on apprend à dire oui et à la proposition de l'autre pour continuer l'histoire. Et ça paraît simple comme ça, mais en fait, quand on fait des exercices au départ, on se rend compte qu'on a quand même certains mécanismes où on ne va pas vouloir toujours accepter l'histoire de l'autre, et donc ça vient un peu nous challenger quand même. Et même au travail, par exemple, on peut se rendre compte, hein, si on observe des conversations entre les personnes, on peut se dire, attends, là, est-ce qu'elle s'écoute vraiment, véritablement, ou est-ce que on est en train de plutôt de réfléchir à donner notre opinion. Et le soin de l'autre, ça a été, pour moi, un des points les plus forts, en fait, en termes de constatation.
En fait, en impro, on se rend compte que quand on fait confiance à l'autre, en fait, quand on a confiance en l'autre, l'autre nous fait confiance aussi. Et oui. Du coup, il nous permet souvent de passer des barrières, de passer des caps.
Oui.
C'est-à-dire que la première fois où j'ai osé faire une scène dramatique, c'était parce que j'étais avec une collègue. Et cette collègue, je savais qu'elle jouait des scènes dramatiques, c'était son kiff. Et donc, je savais que si j'allais là-dedans, je lui ferais plaisir. Et en même temps, je savais qu'elle me répondrait d'une manière qui me permettrait de garder ce fil conducteur-là. Donc, je me souviens de cette scène où elle a commencé très posée. J'ai fait tout l'inverse de ce que je faisais, c'est-à-dire sauter dans tous les sens et essayer de faire rire. Et j'ai pris un pied monstrueux à donner et à recevoir. Et au bout d'un moment, à avoir à me dire « Attention, attention, c'est une scène, en fait, remets de la distanciation par rapport à ce que tu es en train de vivre et donc du coup nourris ton personnage parce que j'étais en train de me laisser emporter et les retours qu'on a eu du public ont appris à mon moi que ça je pouvais le faire, que j'avais le droit de le faire et que je prendrais beaucoup de plaisir à le faire plus tard et c'est pour ça que maintenant je me relance très facilement là-dedans. Donc c'est vrai que donner confiance à l'autre et qu'il nous la renvoie, ça permet de soi-même de se développer tout seul.
Et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'est-ce que le théâtre d'improvisation a fait naître en toi en termes de développement personnel ?
Il y a eu vraiment une... Là, je parlais de la bienveillance tout à l'heure. J'ai mis vraiment beaucoup de sens dans ce mot-là. De l'humilité aussi. De se rendre compte que la personne qui est en face, en fait, a vraiment un univers. Et moi, j'avais tendance à contrôler les improvisations au début, c'est-à-dire à suivre mon idée et réussir à biaiser un peu pour dire « Oui, je prends ton idée, mais regarde, la mienne est bien aussi, elle vient plutôt de mon côté. » Et de se rendre compte qu'en fait, on peut se laisser guider par l'imaginaire de l'autre et que ça fonctionne, bah, de se dire « Ah, en fait, il y a l'autre qui est capable de faire aussi et tu peux tu n'es pas obligé de prendre ce rôle là tout le temps, d'être obligé d'être celui qui va faire avancer les choses. Tu peux te laisser porter aussi et figure-toi qu'ils le font très bien. Et du coup j'avoue que ça m'a permis de me mettre beaucoup plus en retrait de, on parle souvent d'écoute active et d'acceptation de l'autre. C'est moi, ça a été un vrai chemin parce que j'ai toujours eu des renvois de gens qui me disaient « Ah, tu es drôle et tu rebondis sur les autres ». En fait, je me suis rendu compte que c'était faux, que je le faisais d'une manière biaisée.
D'accord.
C'est un coach qui me l'avait dit. Il m'avait dit « En fait, tu es très intelligent parce que tu réussis à nous faire croire que tu es en train de suivre l'idée de l'autre, mais tu amènes l'autre dans ton idée. Ouais. » Et il m'avait fallu du temps pour accepter ça. C'est-à-dire que j'étais persuadé d'être quelqu'un de... qui suivait, qui prenait les histoires de l'autre, et en fait non. Et souvent l'impro m'a remis un petit peu beaucoup à ma place. Ça a aussi fait appel à des notions auxquelles je n'avais jamais prêté vraiment attention, mais à la CNV. En fait, l'improvisation est très proche de la CNV sur beaucoup de points. C'est assez troublant.
La communication non violente, ouais.
Pardon, la communication non violente, oui, bien sûr.
Pour préciser.
Oui, tu as raison. En fait, je me suis intéressé à la communication non violente parce que j'ai une amie qui m'a dit « Tiens, c'est rigolo, vous utilisez pas des termes de communication non violente, mais vous faites ce travail-là. C'est-à-dire que vous observez l'autre, vous essayez d'écouter pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, mais par contre, vous gardez votre côté et vous dites, moi, je ressens ça, et en fait, vous ne niez aucune des deux parties, il y a vraiment une co-construction de la réponse, vous faites des demandes à l'autre qu'il peut accepter ou qu'il peut refuser. Et au début, j'avais pas compris ce qu'elle me disait. Puis quand j'ai regardé la scène, la communication non violente, je me suis rendu compte que waouh, c'était un outil chouette qu'on pouvait encore creuser encore plus dans l'improvisation. Et quand j'ai eu des enfants, tout ça m'a été très utile pour avancer avec eux en fait.
Oui, alors Edouard, par rapport à ce que tu viens de dire, je me dis que cette philosophie, ça serait super qu'elle soit installée dans les écoles. Alors ça se fait de plus en plus. Dans le milieu de l'entreprise, vraiment dans tous les univers, et qu'on ait cette approche dès le plus jeune âge, parce que cette bienveillance, cette indulgence sont vraiment primordiales, hein, pour améliorer les relations humaines dans le monde.
Je pense que, enfin, je suis convaincu. Après, il y a avec la société qu'on a montée là, au Lisco. L'idée, c'était de se dire que, en fait, tout ça, ce sont des soft skills, comme on appelle ça en entreprise aujourd'hui. Tous ces soft skills-là, en fait, sont développables uniquement quand on a un endroit qui est sécurisé. Je parlais tout à l'heure du travail du coach dans un atelier d'improvisation. C'est tout son travail de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de se sentir en sécurité, de sentir qu'il y a un groupe qui est créé. Et qu'il y a des barrières qui permettent à chacun de s'exprimer en liberté et avec le respect de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un groupe d'impro, ce respect, il se crée. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les gens vont dire « Bah non, bah, on n'aime pas ça ». Donc, le groupe apprend ça, par exemple, on n'en parlera pas dans notre groupe parce que, je sais pas, il y en a qui n'aiment pas ça. Et en fait, ça fait des choses apprenantes, ça fait des systèmes qui permettent à chacun de se dire moi ça je suis d'accord, moi ça je suis pas d'accord, comment on l'aborde, comment on ne l'aborde pas, et on se fixe comme ça des règles qui deviennent des règles non pas tacites mais des règles explicites.
Et
tout à fait. On s'est dit que pour que tout ça fonctionne, il fallait qu'il y ait la structure qui aille avec, et que aujourd'hui si la plupart des entreprises ne fonctionnent pas, c'est parce que la structure ne permet pas à chacun de s'exprimer librement ou à chacun de pouvoir exprimer son plein potentiel. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur la gouvernance partagée, sur l'holacratie, sur des systèmes comme ça qui permettent en fait à l'individu d'être souverain dans une structure. Et souvent on compare les entreprises libérées à des systèmes où on se dit ouais, mais tout le monde décide de tout et n'importe quoi. Et en fait non, il y a une structure, il y a des règles explicites qui sont là comme en improvisation. Si je dis que je fais une improvisation à la manière de Molière, il y a des choses que je n'accepterai pas dedans. Par exemple, si quelqu'un prend un téléphone, je vais dire, en fait, non, parce que dans une Molière, il n'y a pas de téléphone. Et tout le monde sera d'accord parce qu'on aura dit Molière qui implique pas mal de règles. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, pour qu'on puisse développer chacun ses compétences, qu'on puisse chacun développer cette bienveillance, il faut qu'il y ait un système qui permette de le faire autour. Donc, pour moi, oui, à l'école, il faudrait que ça soit enseigné, mais il faudrait qu'il y ait les structures autour qui permettent aussi. Si on dit par exemple à un enfant « Très bien, on va t'apprendre à être bienveillant et je vais te noter après. »
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on note les enfants pour pouvoir leur dire s'ils sont bons ou pas bons. Et du coup, ça veut dire que, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas mettre d'impro à l'école, au contraire, ça permet de travailler certaines choses et aux gens de se rendre compte qu'il y a plein de potentiel. Mais ça ne sera jamais aussi libre que si on raisonne de manière systémique. C'est-à-dire que il n'y a pas que les savoir-faire, il y a aussi tout le système autour qui doit permettre à ces savoir-faire de s'exprimer le plus possible.
Oui, tout à fait. Et du moins, en fait, d'installer cette philosophie, surtout. Même par rapport, tu vois, à l'erreur, en fait. Quand on pointe les erreurs, bah voilà, la philosophie du théâtre d'impro, c'est plutôt d'accueillir l'échec, enfin, entre guillemets, l'échec, parce qu'en fait... on se rend compte que l'échec est une opportunité au théâtre d'impro.
Oui, c'est ça. L'échec est une opportunité. Et souvent, cette phrase, elle est un peu biaisée parce qu'on dit l'échec est une opportunité, ne bloquons pas les choses. Mais il y a une vraie notion d'échec. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi quand on échoue, on apprend en improvisation à se dire, on a échoué, et juste à se dire, c'est terminé. En se disant, de toute façon, cette histoire ou cette scène, elle a échoué. En fait, ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir apprendre de ce qui vient de se passer, et on n'est pas obligé de rebondir et de faire semblant qu'il n'y a pas eu d'échec, etc., etc. Donc, en improvisation, souvent, on dit que c'est cool, que c'est chouette de vraiment bien échouer. Voilà, pour pouvoir faire le deuil à chaque fois de plein de petites choses, de se dire qu'est-ce qui m'a fait échouer, c'est ça, d'accord, ça, et de se dire, c'est pas parce que ça m'a fait échouer que je ne vais pas le retenter ou ne pas le réessayer, en fait.
Oui, parce tout à fait.
Tout dépend du contexte.
Oui, et c'est vrai que je me souviens aussi dans les premiers exercices que l'on a fait en théâtre d'impro, c'était d'applaudir et de féliciter quand il y avait des échecs. Donc ça, c'est quand même fort.
Et moi, ce que j'aime dans cet exercice, souvent, la manière dont il se passe, c'est que les gens font semblant au début. C'est-à-dire que quand on leur donne la consigne, applaudissez dès qu'il y a un échec, les gens font ouais. Et après, au bout d'un moment, je le fais travailler en entreprise, cet exercice-là, pour montrer aux gens l'effet sur l'innovation. Parce qu'en fait, quand on mène cet exercice de manière prolongée, on permet aux gens de voir que quand on est OK sur le fait que échouer c'est pas grave, les gens se mettent à tester n'importe quoi. Et de ce n'importe quoi, des fois, j'ai pas évoqué la sérendipité, mais de ce n'importe quoi, des fois, naît des choses folles. Mais il faut qu'on accepte qu'il y ait eu juste avant 5 ou 6 échecs, et au 7e coup, on va se dire waouh, mais ça c'est génial, mais ça vient d'où? En fait, ça vient du fait que tout le monde au bout d'un moment a laissé de côté ses a priori et s'est dit par le passé, quand j'ai proposé ça, ça a fait un flop, donc je ne le proposerai plus jamais dans ma vie. Et là, en impro, on vient dire tu sais, tous les trucs que t'as échoué là, viens nous les redonner, viens, on réessaye tout. Et cette posture-là, quand on réussit à l'avoir, par exemple, dans un brainstorming avec des post-it, on arrive à obtenir des vrais résultats, plutôt que le résultat toujours formaté du « c'est un brainstorming, oui, il faut se lâcher, bien sûr ». Et en fait, on va rester dans notre cadre bien, bien propre, parce qu'on ne permet pas aux gens de pouvoir dire et faire n'importe quoi pour obtenir derrière un résultat qui vient d'on ne sait pas où.
Oui, tout à fait. Et comment cette passion t'a aidé à improviser ta vie?
Tout simple. En fait, là où j'ai pris le plus d'informations sur ma manière de fonctionner, c'est quand je donnais des ateliers. Et c'était les retours que j'avais des fois des participants. Notamment, il m'a fallu un petit moment pour me rendre compte que souvent j'avais tendance à être très paternaliste, c'est-à-dire que en fin d'atelier il y avait un amour des étudiants envers moi qui n'était pas normal, qui était très étrange, et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait comme je crée un endroit où les gens se sentent libres et écoutés pleinement à 100%, et donc je donne aux gens l'opportunité en fait d'être eux, et puis de lâcher tout ce qu'ils ont envie de dire. Et je suis le vecteur de ça. Et si je m'y prends mal, les gens me prennent un peu pour leur papa réconfortant. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour remettre les choses en place. Et puis par exemple, juste me dire que dans la vie on donne des choses aux gens, mais il faut pas attendre en retour qu'il y ait de l'amour ou qu'il y ait du on est juste un transmetteur. Et je sais que par exemple mes enfants, aujourd'hui j'ai juste envie qu'ils soient pleinement eux, mais en même temps qu'ils apprennent qu'il y a des règles pour vivre en société, qu'il y a des règles sur lesquelles je suis pas d'accord, mais que c'est à eux de construire leur propre réflexion derrière, etc. Voilà. Donc là je suis leur papa, donc c'est pas pareil, je suis forcément paternaliste avec elles, mais je porte toujours ce regard là et ça me permet aussi de vivre tous les moments avec eux vraiment dans le présent. C'est-à-dire que un des objectifs que je me suis fixé dans ma vie de papa, c'est de ne pas dire cette phrase « Mon Dieu, ils grandissent trop vite ».
Ah oui.
Et donc pour ça, je fais en sorte de vivre pleinement tout ce qu'il se passe tout de suite, là, maintenant. Et je trouve que c'est d'une richesse folle. En même temps, c'est générateur d'émotions très fortes. Déjà que les enfants, c'est très fort en émotions. Là, c'est voilà, il faut pouvoir prendre du recul de temps en temps. Mais je trouve que pour l'instant, je ne regrette pas d'être avec mes enfants maintenant.
D'accord.
Il y a des choses que j'aimais quand ils étaient petits. Il y a des choses que je crains quand ils seront plus grands. Ce que l'on vit là maintenant, je voudrais pas que ce soit avant et je veux pas que ce soit après. Je veux juste que ce soit maintenant. Et ça, c'est vraiment une posture de l'improvisateur qui est fondamentale pour réussir à se connecter à l'autre. On appelle la connexion. C'est juste pour être raisonné avec l'autre, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai moins de scrupules à me dire tiens, ben, je vais pas me projeter dans 20 ans. Dans ma vie avec ma compagne, je vais plutôt me projeter dans maintenant. Bien sûr, je fais attention à ce qui s'est passé avant, je fais attention à ce qui s'est passé après, mais ce qui est important, c'est de se dire ok, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant en fait, parce que c'est pour moi, c'est le maintenant qui est important, c'est le maintenant qui joue. Si on se dit j'aurai le temps de voir ma conjointe oui, plus tard,
oui.
On perd le maintenant en effaçant totalement ce que notre conjointe peut nous demander maintenant. Est-ce qu'elle a besoin que je sois présent maintenant? Si elle a besoin que je sois présent maintenant, ça sert à rien que je lui dise ok, tu sais quoi, je vais me libérer dans 2 semaines, et puis dans 2 semaines, on passera du temps ensemble, parce que c'est maintenant, en fait, qui est important pour elle.
Tout à fait.
Donc, il y a toute une importance qui a été donnée. Je m'efface pas, hein, attention, j'ai appris aussi à... Si tu as besoin de moi maintenant et que je suis pas disponible, en fait, je vais juste te le dire, en fait. Je vais juste te dire, en fait, je comprends, mais et ça rejoint la CNV. Je comprends, je suis pas disponible pour toi là maintenant. Où est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Comment on peut co-construire cette situation là maintenant plutôt que de la reporter à plus tard? Et vraiment, ça a guidé, ça guide aujourd'hui beaucoup de mes décisions. Et par contre, je n'oublie pas que, par exemple, ma conjointe, elle ne voit pas les choses comme ça. Donc, on co-construit ensemble. Elle voit le futur. Il est important que je puisse projeter des choses dans le futur. Donc l'idée, c'est on s'écoute et voilà. Et mais moi, c'est la vie dans le présent. C'est ce que ça m'a apporté le plus, l'impro.
Et quand tu parles justement de tes relations, donc je trouve que cette passion pour le théâtre d'impro, ça nous aide quand même plus rapidement à entrer en lien. Et ce lien, il est fluide, il est positif et il est simple en fait avec l'autre. Parce que justement, il y a du non-jugement, il y a de la bienveillance qui est réelle. Il y a de l'accueil et puis le fait que on développe énormément d'indulgence. Donc ça peut être envers des enfants, son conjoint, sa conjointe, etc.
J'ai une anecdote là-dessus. On m'a fait un compliment il n'y a pas très longtemps qui m'a fait extrêmement plaisir. J'ai rencontré quelqu'un qui a un caractère assez fort, a des idées très arrêtées sur comment doit être la vie et comment doivent être les choses. Et on a travaillé ensemble sur de l'impro, donc j'ai donné des formations. C'était en Nouvelle-Calédonie, justement. Et à la fin, il m'a dit c'est la première fois que de la bienveillance ne m'emmerde pas. Il m'a dit t'es la première personne qui vient de me faire comprendre ce que la bienveillance, en fait, c'était pas forcément être focus. Et je te remercie pour ça. Il dit, j'aime toujours pas ça, mais je trouve ça vraiment chouette la manière dont tu le fais.
Ah
et
oui.
J'ai trouvé ça vraiment un gros pas de sa part d'être capable de dire, parce que c'était le premier à dire, ah ouais, super, de la bienveillance encore, c'est parti, ah ben j'aime tout le monde. Et je lui ai dit, ouais, c'est pas ça. Et je lui ai montré comment moi je voyais la chose, avec l'indulgence, mais avec la... l'expertise que je demandais aussi quand même, c'est-à-dire que je disais sans être indulgent, voici ce que moi j'ai trouvé de chouette, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens disaient ouais, c'était chouette comme scène, effectivement c'était chouette le point que tu pointes. Il y a plein de défauts, tout le monde a vu les défauts, d'accord, moi j'aimerais qu'on pointe maintenant les côtés positifs. Et en fait, ce travail là il a trouvé ça très intéressant, parce qu'il s'est dit en fait, on peut être plutôt que de faire un paquet, je veux dire, lui c'est un con ou un abruti. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait, sur lequel, comment je pourrais travailler avec lui? Et ben ça et ça, c'est intéressant, il sait bien le faire, du coup je vais m'appuyer là-dessus. Le reste, je suis pas obligé de prendre le package, je peux prendre que ça.
Et penses-tu que cette discipline, elle est faite pour tous les types de profils, et pourquoi?
Alors, tout dépend ce qu'on y cherche. C'est toujours pareil, artistiquement, il y a des gens qui feront ça mieux que d'autres, qui prendront plus leur pied dedans, qui trouveront plus que c'est leur meilleur moyen de s'exprimer. Mais je pense qu'en tout cas, l'apprentissage de l'impro est faisable par tout le monde. Tout le monde peut venir tester les outils de l'improvisation. Après, tout dépend sur quel groupe on va tomber, sur quel coach on va tomber. J'ai envie de dire, c'est un peu comme, c'est un petit peu comme comme tout dans la vie. Il faut tomber au bon endroit, au bon moment. Si je suis pas disponible intellectuellement, ça va être très compliqué de rentrer dans un atelier où on me demande d'explorer mes émotions. Si j'entre dans un atelier où c'est juste une bande de copains qui a envie de rigoler, peut-être que ça va être très facile pour moi d'aborder l'improvisation. Mais l'improvisation a tellement de facettes et demande tellement peu de moyens de départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'instruments, on a juste besoin d'être un groupe et on a juste besoin de se regarder et d'apprendre à se faire confiance grâce au coach. Que ouais, je pense que tout le monde peut faire de l'improvisation théâtrale. Et souvent, on dit les enfants sont les meilleurs improvisateurs du monde. Tous les enfants savent improviser. Ils prennent un bout de bois et puis d'un seul coup, ils deviennent chevaliers. Nous, c'est ça qu'on fait sur scène, mais au lieu d'être dans notre univers, on prend en plus l'univers de l'autre en face. C'est-à-dire qu'on lui dit pas « Moi, je suis le prince et toi, t'es la princesse. » On lui dit « Hey, ça te dirait qu'on fasse un truc médiéval ?» Et l'autre, il dit « Ouais, j'adore le médiéval. Ok, moi, j'aimerais beaucoup être le prince. Ok, d'accord. Moi, j'ai pas envie d'être une princesse, j'ai envie d'être un prince. Ok, on est deux princes, alors ça marche. Et qu'est-ce qu'on va conquérir ?»« Ah, on va conquérir un truc. Ben ouais, ben, ça peut être un trésor. D'accord, c'est quoi ce trésor ?»« C'est un cœur. Ah, un cœur ardent. Ouais. » Et puis, on va construire les choses comme ça. Donc, on prend l'imaginaire de l'enfant et on y ajoute l'imaginaire de l'autre enfant. Et en fait, on va faire se parler nos deux enfants. L'idée, c'est on va se parler d'adulte à adulte dans la tête, mais par contre, on va laisser tout notre enfant s'exprimer et on va juste lui donner les rails pour que cette expression, elle nous permette à tous les deux d'être libres en même temps ensemble.
Donc, oui, tout à fait.
Oui, il faut que l'impro envahisse le monde.
Et c'est vrai qu'on a tous été enfants. Et donc, c'était quelque chose de naturel et c'est parfois nos conditionnements ou voilà, nos expériences qui ont mis certains filtres, mais on peut aussi les retirer. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence l'impro, j'entends souvent « ça donne envie, mais j'ose pas y aller ». Et c'est vrai qu'au début, je me suis rendu compte qu'on pouvait être aussi impressionné, mais c'est surtout nos croyances sur cette activité qui nous impressionnent. Et quand on commence les cours, on se rend bien compte que c'est très progressif. En fait, on ne nous lâche pas tout de suite. Il y a des exercices, on apprend à se connaître dans la troupe. Donc, c'est important de l'avoir en tête pour se lancer en théâtre d'impro. Et on se rend tout de suite compte que c'est très positif, c'est très accueillant. Donc, en fait, il y a quand même ce cadre sécurisant, comme tu disais tout à l'heure, qui nous permet d'aborder le théâtre d'impro dans de bonnes conditions.
Oui, la croyance, souvent, elle est sur le résultat final. Ouais. Les gens jugent du résultat final et puis ils se disent « Waouh, mais s'il faut faire tout ça ?» Moi, souvent, je leur dis « Mais moi, si vous êtes comptable et que vous me mettez devant un tableau comptable, ça me paraît insurmontable. En fait, vous avez appris au fur et à mesure, on vous a donné des clés, il y a des choses qui ont été intégrées, il y a des choses que vous avez encore à apprendre. Et en fait, en impro, c'est ça, c'est-à-dire qu'on intègre des choses, on déconstruit surtout des choses parce que, du coup, notre outil de travail, c'est plus un tableur Excel, c'est notre propre corps et notre propre psychologie. Et y a plein de choses à déconstruire. C'est très abordable, l'impro, en fait. C'est très... Mais encore, c'est toujours pareil, il faut tomber sur le bon groupe et sur le bon coach. C'est pour ça que j'invite les gens à... tester plus, s'ils ont la possibilité, tester plusieurs groupes en fait d'improvisation.
Et quelles sont pour toi les fausses croyances concernant le théâtre d'impro?
La première qu'on me dit souvent, c'est que l'impro c'est du stand-up et que l'impro c'est rigolo. Et aujourd'hui, on a du mal à se dépatouiller de ça. D'ailleurs, j'étais un des premiers convaincus au début que l'impro, c'est rigolo. Parce que l'apprentissage passe par le jeu et que du coup, tout de suite, on dévalorise une activité en se disant, ah, bah, si c'est du jeu. Et en fait, pour nous, on le dit souvent, le jeu, c'est sérieux. On compare ça, par exemple, à quand on dit jouer la cinquième symphonie de Beethoven. Je sais pas si elle existe, mais on se rend compte que c'est pas de la rigolade de jouer une symphonie ou de jouer une pièce de théâtre avec du texte. Et en fait, nous, le jeu est important et primordial, pour pouvoir acquérir des choses. Et donc, oui, on rit beaucoup au début, mais le rire nous permet de se défouler, de se mettre d'accord. Hey, on est là, c'est pas grave, on va pouvoir faire plein de choses ensemble. Et après, la notion de stand-up, le stand-up, en fait, c'est très, très écrit, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est très individuel. Nous, c'est un travail collectif, c'est-à-dire qu'on ce qu'on cherche, c'est le rapport avec l'autre et on a besoin de l'autre. Et si on y a de l'impro en solo, l'impro en solo a besoin du public. Elle a besoin de se nourrir du public, de sentir ce qu'il a envie, ce qu'il veut traiter aujourd'hui, et en même temps de dire au public, je comprends ce que tu veux, mais moi aussi j'ai ma sensibilité à exprimer, donc on va se mettre d'accord tous les deux. Si je vais trop loin, dis-le-moi. Si je ne vais pas assez loin, dis-le-moi avec tes retours, c'est-à-dire avec tes soupirs, avec tes applaudissements, avec tes rires, avec tes cris, avec tout ça. Il y a cette communion-là. Et on a du mal à voir l'improvisation comme ça fait ésotérique ce que je dis, mais pas du tout, hein. On a du mal à voir l'improvisation comme quelque chose où on va se mettre les uns et les autres et se connecter et s'écouter pour mieux se comprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre en impro, que je trouve fabuleux.
Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de répartie pour faire de l'impro.
Non, non. Ça, c'est une croyance aussi. C'est-à-dire que les gens nous voient aller vite. Donc, ils se disent, waouh, il faut de la répartie. Et en fait, cette répartie, elle s'appuie, comme je disais tout à l'heure, sur des structures qu'on a narratives. C'est-à-dire que si je sais qu'à ce moment-là, il faudrait que je mette le personnage d'en face en colère, eh ben, on sait comment mettre en colère quelqu'un, donc je sais comment mettre en colère un personnage. Et donc du coup, pendant, je sais pas, pendant 3 minutes, eh ben, le texte va sortir tout seul parce que je sais dans quelle direction je vais. Je sais que je vais le mettre en colère. Et puis si l'instant d'après, il faut que je le réconforte, ben, je connais des mots pour réconforter, donc je vais, pendant 3 minutes, je vais être en roue libre sur le, voici comment je vais te réconforter, etc., etc. Donc, souvent, on se dit, ouais, il faut de la répartie et tout, mais je fais, ben, non, la répartie, en fait, ça se travaille aussi. C'est comme, si je demande à un professionnel de m'expliquer, à un menuisier de m'expliquer, comment il fait un meuble, eh ben, il va réussir à me tenir le crachoir pendant 30 minutes, mais parce qu'il sait ce qu'il a à m'expliquer.
Et si tu devais donner envie à quelqu'un de se lancer en théâtre d'impro, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais peut-être en lien avec un TEDx que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu connais la différence entre un risque et un danger? En improvisation, il n'y a pas de danger, il n'y a que des risques. Et en fait, le risque le plus grave que tu cours, c'est d'y prendre énormément de plaisir. Donc, comme il n'y a pas de danger, j'ai envie de dire, lance-toi. Et de ra rappeler aussi aux gens que l'improvisation, ça s'apprend. En groupe, c'est-à-dire que c'est un apprentissage de groupe et on va avancer en groupe. Et ça, c'est la magie de se dire, tiens, je vais pouvoir donner, puis quand je peux pas donner, quand je suis pas en état de donner, eh ben, je vais laisser les autres faire et je vais prendre. Et si je suis en état de prendre, je vais prendre beaucoup. Si je suis pas en état de prendre, je vais pas prendre beaucoup. Mais il y aura toujours ce groupe-là qui sera là pour au moins passer un bon moment. Et au bout d'un moment, bah, j'aurai envie de donner, puis j'aurai envie d'attraper, puis j'aurai envie de tirer, puis j'aurai envie d'échouer, puis j'aurai envie de plonger, de faire plein de choses. Et tout ça, en fait, se fait petit à petit. C'est vraiment un apprentissage de la marche de l'esprit, pardon.
Merci beaucoup, Edouard.
Merci à toi, Mathilde. Merci pour ce plaisir partagé.
Ce que je retiens de ce podcast et ce qui résonne en moi, c'est que le théâtre d'impro, c'est avant tout un groupe d'entraide où l'on peut assumer qui l'on est, apprendre à nous connaître et également les autres. Cet art, cette philosophie, vient développer différentes qualités chez nous, comme par exemple l'écoute, la confiance en soi, le courage, l'intuition, l'humilité, le droit à l'erreur, et plein d'autres encore. Le théâtre d'impro apprend à changer de regard sur ce qui nous entoure, prendre du recul sur les événements de la vie, et ouvre tous les possibles. C'est aussi explorer le monde de l'autre au moment où il nous le présente, sans lui coller d'étiquette, car tout est construit ensemble. Chacun fait un pas vers l'autre, en toute confiance. Quelle merveilleuse invention que de mettre en mouvement tout un collectif qui permet à chacun de trouver sa propre place, d'exprimer son potentiel et d'ajouter à l'histoire sa touche personnelle. Chacun a son talent intérieur, un trésor à découvrir. Et vous, qu'est-ce qui résonne en vous ? C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous.